Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce 182e numéro de Métropolez-vous. Merci d'être toujours fidèle à cette émission consacrée à l'actualité métropolitaine, aux grands dossiers et aux grands projets de la métropole toulousaine. Et en parlant de grands dossiers, de grands projets, vous savez sans doute, surtout si vous écoutez régulièrement cette émission, que beaucoup d'entre eux concernent l'urbanisme et l'habitat, directement ou indirectement. L'urbanisme et la gestion de l'espace urbain ayant eux-mêmes de nombreux aspects, architecturaux bien sûr, mais aussi économiques, sociaux, environnementaux et juridiques. Il existe un document fondamental dans ce domaine, c'est le PLUIH, autrement dit le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat. Il sert de référence pour tous les aspects que je viens d'évoquer et son élaboration et sa validation nécessitent un gros travail dans lequel les citoyens métropolitains ont aussi leur mot à dire. Je pense que vous aurez compris toute l'importance qu'il revêt, d'autant plus que le PLUIH approuvé en avril 2019 a été annulé par décision du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars et 20 mai 2021. Un nouveau document est donc en cours d'élaboration et il fait l'objet d'une concertation elle aussi en cours. PLUIH de Toulouse Métropole, élaboration et concertation en cours, c'est le sujet de ce numéro. Inutile de préciser que le sujet est assez, voire très technique, que j'avais besoin de quelqu'un qui le connaisse bien dans le détail pour l'aborder dans cette émission. J'ai donc invité Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. Bonjour madame et merci d'être au rendez-vous de Métropolez-vous.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est précisément le PLUIH ? Est-ce qu'il s'agit d'un document obligatoire que chaque collectivité métropolitaine doit élaborer?
Alors le PLUIH est un document de planification à l'échelle de la parcelle sur un territoire donné qui est, pour ce qui nous concerne, le territoire de la métropole. Et ce document de planification, qui est obligatoire, hein, il s'inscrit dans une sorte de document successif et d'importance successive depuis l'échelle régionale jusqu'à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire le PLUIH. Donc nous avons à l'échelle régional, un document de planification imposé par la loi ou prescrit par la loi, qui est le schéma régional, alors dans un terme un peu plus barbare, qui est le SRADET, c'est comme ça que l'on l'appelle, parce que c'est assez long à écrire, à définir, donc qui est un document de planification à l'échelle régionale. Ce document de planification à l'échelle régionale a priorité sur un document qui a une autre échelle, plus locale, si je peux dire, qui est aussi un document de planification de l'aménagement sur du long terme, et qui s'appelle le SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui, pour ce qui nous concerne, a un périmètre qui est le périmètre de la grande agglomération toulousaine, avec le Sicoval, Muret, le syndicat de la Savotouche, Plaisance du Touche et tous les coteaux, et le dernier étant Coteau de Bellevue. Donc ce SCOT définit les grandes orientations, définit une trajectoire de développement et d'aménagement, et le PLUIH, c'est-à-dire notre document de planification à l'échelle parcellaire, doit, lui, être en compatibilité avec ce document précédent. Si bien que nous ne faisons pas non plus n'importe quoi à l'échelle du PLUIH, puisque nous devons respecter les grandes orientations définies par ce document sur la grande agglomération. Donc, vous le voyez, nous sommes un petit peu encadrés par des grands enjeux à une autre échelle que l'échelle purement locale, mais nous travaillons à une échelle intercommunale, puisque nous travaillons à l'échelle de la métropole, et que ce document de planification, en quelque sorte, efface, si je peux dire, les limites communales. C'est-à-dire que nous travaillons sur un projet d'aménagement, sur un projet de développement du territoire à l'échelle de la métropole. Et la particularité de ce document d'urbanisme à l'échelle métropolitaine, c'est qu'il intègre le H, vous ne l'avez pas oublié, le PLUIH, c'est-à-dire toute la politique de l'habitat qui est intégrée directement dans la réflexion et dans les orientations d'aménagement que l'on va avoir sur le territoire. Donc, la politique de l'habitat est intégrée dans notre document de planification, mais malgré tout, ce document de planification tient compte, et non pas intègre, mais tient compte de toutes les autres politiques publiques. La mobilité, c'est important, l'environnement, On va le voir que c'est absolument
essentiel. Et ça, c'est de plus en plus
essentiel. L'économie, le développement. On ne développe la métropole que s'il y a un développement économique. Donc, ça va de pair. Donc, l'économie, la santé, bien évidemment. Enfin, toutes ces politiques publiques sont au cœur de la réflexion de notre projet politique d'aménagement qui va se traduire, on va le voir, en réglementation, en règles. Donc prescriptive pour les permis de construire.
Et donc tous les maires de communes de la métropole, de la plus petite à la plus grande, doivent se conformer au PLUIH. Par qui est-il élaboré ce PLUIH ? Quelles sont les personnes qui vont le rédiger ou les institutions qui y participent ?
Alors, qui le rédige, qui travaille sur ce PLUIH, c'est d'abord les services de la métropole et tous les services de la métropole. Il y a un service qui est dédié à l'élaboration du PLUIH, mais il ne travaille pas seul, bien évidemment. Il travaille avec tous les services, puisque je parlais de la mobilité, je parlais de l'économie, je parlais de l'environnement. Tous ces services-là sont directement impliqués dans l'élaboration de ce document. Et nous avons également associé à notre réflexion, et puis qui est parmi l'équipe pilote de ce document, l'Agence d'urbanisme, qui a une grande expérience dans le sujet des documents d'urbanisme. Et donc, il y a une équipe dédiée à l'élaboration de ce document d'urbanisme. Et nous travaillons avec tous les services, mais également avec les services de l'État, bien évidemment, qui a un rôle important, et avec tout ce que nous appelons personnes publiques associées, TICO, parce que le plan mobilité, c'est important, je l'ai signalé déjà, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, bien évidemment, tous ces partenaires extérieurs que nous appelons de façon barbare, personnes publiques associées, c'est comme ça qu'elles sont administrativement appelées, qui participent aussi aux travaux, la Fédération des promoteurs, la Fédération du bâtiment, la Fédération des travaux publics, en fait, toutes ces personnes participent avec nous à l'élaboration de ce document.
Alors, on va essayer d'être très pratique, hein. À quel cahier des charges doit répondre le PLUIH ? Selon quels critères est-il rédigé et à quoi sert-il ? Alors d'abord, évidemment, on pense tout de suite au permis de construire. Il va servir de référence à tout ce qui est délivrance de permis de construire.
Bien sûr, c'est un document de planification qui définit les orientations d'aménagement, mais qui surtout permet d'instruire des permis de construire et définit la vocation de chaque parcelle du territoire,
Chaque autorisation d'urbanisme. Alors, une chose nouvelle, et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y attarde un petit peu, c'est que depuis août 2021, il doit prendre en compte ce qui s'appelle la loi climat et résilience, qui vise à zéro artificialisation nette d'ici 2050. Expliquez-nous comment tout ça est intégré dans le PLUIH et à quoi aussi ça vous engage, parce que je crois que c'est assez complexe.
Alors, la loi climat et résilience est effectivement une loi qui a été prescrite et qui a été votée et qui s'applique depuis août 2021 et qui, dans un environnement de complexité, en a rajouté une couche, si je peux dire. Parce que je crois que plus compliqué que cela maintenant, je ne sais pas si ça peut exister. Mais c'est devenu excessivement complexe. Cette loi qui a un objectif qui est vertueux de limiter l'étalement urbain, enfin, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres éléments concernant plus précis, mais je n'évoquerai que celui-là, limiter l'étalement urbain et pour cela, fixe un objectif à 2050 de zéro artificialisation nette. Ce qui veut dire tout n'est pas complètement défini. Mais on peut imaginer ce que veut dire zéro artificialisation nette, c'est qu'entre ce qui est artificialisé et ce qui ne l'est pas, il y a un équilibre puisque c'est zéro. Et pour cela, fixe des étapes consécutives par pas de 10 ans. C'est-à-dire que depuis 2021 jusqu'en 2031, nous devrons réduire de moitié notre consommation foncière. Et cela par rapport aux 10 années précédentes. Et chaque 10 ans successifs devront réduire aussi de moitié la consommation foncière pour arriver à zéro artificialisation.
Alors, pour être clair, ça veut dire que les zones constructibles, tout simplement, vont être réduites de moitié. C'est ça que ça veut dire.
Alors, les zones constructibles, non, parce qu'il y en a qui le sont actuellement, qui ne sont pas touchées. Celles qui le sont déjà, non. Mais nous ne pourrons pas ouvrir à l'urbanisation des territoires non artificialisés.
Dis-moi, en quelque sorte protégés.
Qui seront... Alors si, on pourra les consommer dans la limite des 50% qui ont définis. Et cela, ça intègre bien sûr dans les 50% de zones à ouvrir, on compte les voiries, on compte les emplacements réservés, on compte tout. On compte les espaces dédiés à l'économie. Et on sait très bien, par exemple, sur notre territoire toulousain, alors les zones commerciales c'est à part parce qu'on sait que les zones commerciales, les extensions commerciales, on peut afficher dès maintenant qu'elles ne vont pas s'étendre comme elles l'ont fait depuis les dernières années. Mais je donne un exemple pour les zones économiques. Toulouse a une particularité avec un industriel. Je cite celui-là qui n'est pas le seul, bien évidemment, à Toulouse. Mais regardez Airbus qui a besoin de grosses surfaces pour se développer. La consommation d'Airbus est énorme dans notre quota de consommation foncière. Toutes les lois sont la même pour tous les territoires de France.
Oui, que ce soit des territoires
qui se dépeuplent ou des territoires qui ont une démographie un peu galopante. Voilà, qui ont soit une démographie forte, mais liée à des créations d'emplois, à l'économie. Donc, on a besoin d'un équilibre entre tout cela et on a surtout une forte attractivité. Et une métropole en forte attractivité, la loi climat et résilience est la même pour elle que pour un territoire.
Donc, ça va être excessivement contraignant.
Donc, c'est quand même très, très, très compliqué. Ça va être très compliqué et il faut y arriver. Et notre PLUIH, puisque nous démarrons un nouveau PLUIH, nous intégrons cette prescription qui est de limiter de 50% notre consommation foncière. Et je pense que nous sommes les premiers à tester être dans la mouvance de cette nouvelle loi. Et nous serons observés parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte de la complexité de ce travail.
Ouais, c'est un vrai défi.
Mais c'est un défi, et c'est un défi finalement que nous allons relever, bien évidemment. De même que le défi de refaire un PLUIH, c'est un exercice que finalement d'un mal on peut en faire un bien, et c'est dans ce sens, avec cette ambition-là, que nous nous y lançons. Voilà.
Pourquoi le précédent, donc d'avril 2019, a finalement été annulé par décision du tribunal administratif de Toulouse ?
Alors, il a été annulé sur un sujet de consommation foncière. Pas un reproche de notre consommation foncière, mais pour faire court, on nous a reproché, puisque nous devons estimer la consommation foncière des 10 années précédentes, nous n'avions pas les chiffres donnés par l'État, enfin des chiffres officiels, si je peux dire. Donc sur 2 années, nous avons extrapolé la consommation foncière. On nous a reproché ce point de détail, mais qui est un point de détail qui touchait le PADD, c'est-à-dire ce document qui est important dans un document d'urbanisme, et le PLUIH a été annulé. Moi, je voudrais insister sur une chose qui est sans jugement de valeur, mais le PLUIH est un document d'intérêt général. Il a été travaillé par 37 maires. Il a été approuvé à l'unanimité par 37 maires à une époque où chacun, auparavant, travaillait sur son propre document d'urbanisme à l'échelle de sa propre commune. Donc il a fallu vraiment une nouvelle façon de voir le développement urbain à l'échelle de la métropole et oublier un petit peu ses limites de la commune. Si bien que c'est un travail ambitieux qui a été fait précédemment. Donc de 37 maires, donc un document d'intérêt général. Et ce document, il a été balayé par le tribunal administratif à partir d'une plainte d'une personne, d'un Toulousain, qui trouvait qu'il n'était pas situé dans la zone qui convenait et qui gagnait je crois que c'est un secteur pour lequel on avait diminué d'un étage parce que les associations l'avaient demandé, les associations de quartier, dans l'intérêt du quartier, il avait demandé. Donc, on avait été respectueux de cela parce que ça se justifiait, si bien qu'on avait baissé la constructibilité. Et une personne a été lésée sur le plan privé par la diminution de cette constructibilité et a fait ce recours. Et c'est ce recours qui a généré l'annulation d'un document d'intérêt général. Et c'est ça que je trouve que l'on pourrait regretter, c'est qu'un intérêt privé, d'un intérêt financier privé, d'une personne qui s'est sentie lésée financièrement, il en a découlé l'annulation d'un document qui avait été élaboré à l'échelle métropolitaine. Et c'est un document pour tous et qui avait été approuvé par les 37 maires. Donc voilà, c'est ce que je peux dire qui est assez choquant sur cette annulation. Maintenant, le juge est souverain.
Bien sûr. Et donc, vous avez dû vous conformer à la décision de justice.
Retravailler finalement avec, parce que c'est un pari. C'est une ambition que l'on manifeste et en intégrant cette nouveauté qui est la loi climat et résilience, qui complique les choses, mais nous y allons avec énergie.
Le document en lui-même, le PLUIH, de quelle pièce, de quelle partie est-il constitué ? Alors, il y en a une qui est soumise à évaluation environnementale et qui comprend, je crois, 5 ou 6 pièces. particulière à l'intérieur. Donc il y a un rapport de présentation.
Le rapport de présentation, il donne l'état des lieux. Il permet de comprendre comment on en arrive à cette politique d'aménagement, parce que le PADD, c'est le projet d'aménagement lui-même. Et le rapport de présentation, il y a le diagnostic territorial, les orientations de développement, la démographie, etc. Tout ce qui permet de bien comprendre.
Le PADD, c'est le projet d'aménagement et de développement durable.
Voilà. Alors le PADD, c'est le document le plus important parce que ça traduit le projet politique. Voilà. Le PADD, c'est un document qui est politique. Dans le sens noble du terme, les élus se sont mis d'accord sur un projet de territoire qui va se traduire ensuite en règles, mais un projet de territoire sur la base de constats et d'un diagnostic qui a été effectué. Et c'est le document le plus important et le plus sensible. Si dans un recours, le PADD est attaqué, enfin, il y a une faille dans la réalité.
Tout s'effondre.
Tout s'effondre, voilà. C'est le motif de l'annulation. Voilà. Ensuite, il y a des OAP. Des OAP, c'est des orientations d'aménagement sur certains territoires où on estime que le développement doit se faire de telle ou telle façon, donc on anticipe, et il y a des orientations d'aménagement et de programmation qui sont établies. Il y a des pièces réglementaires, alors ça, on rentre dans le dur du règlement.
L'aspect juridique, là, vraiment.
L'aspect juridique, où on définit des règles de constructibilité ou des règles de recul, des règles de hauteur, des règles de densité. C'est le document qui est utilisé, qui est la base même de la délivrance des permis de construire. Voilà. Et ensuite, il y a des annexes. Dans les annexes, on trouvera les servitudes, les emplacements réservés, les AC, les réseaux. Voilà, tout ce qui est important mais qui est annexe à ce document.
Donc voilà les différents volets donc, du PLUIH. Le nouveau PLUIH, quels objectifs lui avez-vous fixés ?
Alors, je ne vais pas vous dévoiler tous les objectifs qui ont été fixés parce que nous sommes en train d'y travailler, mais nous avons eu plusieurs séminaires déjà de travail avec l'ensemble des communes pour valider d'abord un diagnostic. Hein. Est-ce que la démographie est toujours aussi importante sur Toulouse et sur la métropole ? Est-ce que l'économie a repris ? Alors donc, on s'entoure de compétences pour essayer de valider un certain nombre de données qui vont être la base de notre diagnostic. Et ensuite, on va déterminer une trajectoire de développement. Alors celle-ci n'a pas été... Il y a plusieurs scénarios de développement qui ont été partagés avec les élus. On leur a demandé leur avis. Donc on est en train de travailler là-dessus pour fixer une trajectoire d'accueil et d'accueil liée à la création d'emplois, puisque tout ceci est lié, qui va déterminer quels sont les besoins en termes de logement et autres sur le territoire de la métropole. Pour l'instant, nous en sommes là. Voilà.
Alors une priorité tout de même, c'est de mobiliser les espaces déjà urbanisés. Hein.
La loi climat et résilience, alors ce serait bien trop long de la décliner, mais elle impose, avant toute ouverture à l'urbanisation, de vérifier ou de démontrer même si cette urbanisation est nécessaire à cet endroit-là, si finalement l'accueil de population, l'accueil de logement ne pourrait pas se faire ailleurs. Donc c'est excessivement compliqué, nous sommes en train d'analyser tout ça, parce que les outils pour cela sont des outils qui relèvent de l'hygiène, parce que établir un bilan exactement de tout ce qui se passe sur le territoire, ça relève de notre compétence, mais pour ce qui concerne les espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qu'on appelle les ENAF, qui peuvent être inclus dans le territoire urbanisé, il faut des outils incontestables. Donc nous travaillons avec des outils de l'IGN pour essayer d'identifier quels sont, mais c'est excessivement... Je ne rentre
encore,
pas là-dedans parce que
c'est
très complexe. Mais nous devons identifier, bien sûr, les territoires qui vont devoir être intensifiés, si je peux dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des équipements structurants, parce qu'ils sont bien desservis, parce qu'il y a toutes les aménités. Notre objectif, nous, c'est d'accueillir, mais de faire en sorte que les gens qui soient accueillis et que les Toulousains, les métropolitains, disons, soient logés dans des bonnes conditions.
C'est
dans les meilleures conditions.
C'est maintenir la qualité de vie, on sait qu'on vient aussi à Toulouse pour ça.
A priori, il faut absolument maintenir la qualité de vie des Toulousains, où qu'ils soient. Donc, il faut faire en sorte d'en accueillir un peu plus sur des territoires qui sont bien équipés, bien structurés, qui ont des services d'accueil, qui ont des espaces verts, et puis en accueillir un petit peu moins sur des territoires dont les dessertes en transport en commun sont moins importantes ou qui sont un peu plus éloignées des cœurs de quartier ou des villages ou des villes. Donc, il faut vraiment étudier tout cela de manière à équilibrer ce territoire et faire en sorte que les gens y soient bien. Ils soient bien parce qu'ils sont bien dans leur appartement, ils sont bien dans leur quartier, ils sont bien dans leur commune, ils sont bien parce que tout a été pensé. Voilà.
Et puis, il y a une autre priorité là, qui était déjà le cas du précédent mandat, c'est vous voulez aussi préserver le patrimoine bâti de la ville, le mettre en valeur, y compris que c'est le patrimoine végétal, si je puis dire, les espaces verts?
Alors, le patrimoine végétal, les trames vertes et bleues, les corridors écologiques, les continuités écologiques, tout ça fait partie de ce lourd travail que nous sommes en train de faire. Et puis, il y a bien sûr le patrimoine. Donc, il faut préserver ce qui mérite vraiment de l'être. Oui. Parce que moi, je trouve que les Toulousaines sont toutes mignonnes, mais une Toulousaine isolée dans un territoire qui doit être plutôt intensifié parce qu'il y a des transports structurants, parfois, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors maintenant, tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est la mémoire et l'histoire d'un territoire doit être préservé parce que ce que nous souhaitons, alors c'est ce que nous faisons d'ailleurs sur Toulouse, travailler quartier par quartier pour maintenir l'identité des territoires. Alors l'identité des territoires, ça ne veut pas dire protéger la Toulousaine. Mais l'identité des territoires, ça veut dire préserver certaines formes urbaines parce qu'elles méritent d'être préservées, parce que ça fait partie de l'identité de Toulouse à cet endroit-là et que ça a du sens. Mais c'est aussi dans des secteurs qui doivent se transformer, ne pas oublier cette identité, s'il y en avait une, quoi. Donc, c'est un gros travail que nous faisons, quartier par quartier, mais que nous ferons à l'échelle de chaque commune, parce que nous travaillons en partenariat, bien sûr, avec chaque maire et chaque commune, dans l'objectif, non pas de détruire cette identité qui fait leur paysage, mais au contraire, d'accompagner ce développement en maintenant l'identité. Et c'est vrai qu'il y a énormément de patrimoine dans toutes ces communes.
Hein. Sachant qu'il faut aussi intégrer les contraintes climatiques maintenant aussi, hein, et la recherche de performance énergétique.
Il faut l'intégrer. Il faut aussi intégrer tout cela. Toutes ces politiques publiques doivent être intégrées. Alors bien sûr, le changement climatique, la transition énergétique, la santé, la qualité de l'air doit être intégrée aussi dans nos préoccupations. Tout ce qui fait que les habitants vont se sentir bien là où ils sont. Il faut préserver l'agriculture aussi. Oui. C'est une part importante dans le territoire. Les espaces agricoles.
Tout le périurbain.
C'est important, non seulement pour la qualité de vie, mais c'est important aussi pour les Toulousains. On parle de circuits courts, on parle de relations. Donc nous travaillons de façon très très proche avec la Chambre d'agriculture pour définir quels sont les territoires qui ont une valeur économique agricole importante qu'il faut impérativement préservé. Et puis nous travaillons au-delà de cela à un projet agricole, à la limite la ville, la relation avec la métropole et l'agriculture périurbaine parce qu'on en a besoin.
Ouais. Voilà. Alors je parle de concertation au début, donc les citoyens sont consultés, ils ont leur mot à dire, leurs idées à apporter, leurs préoccupations dont ils ont sans doute envie de faire part, et ça compte pour finaliser, élaborer le PLUIH. La concertation est en cours, alors ça se passe comment en fait? Ça va être presque jusqu'au bout du projet.
Voilà, la concertation a démarré quand le document était prescrit. Alors, il y a eu un conseil métropolitain le 10 février, je crois, et c'est vers le 20 février que démarre la concertation officiellement. Si bien que tout citoyen de la métropole peut soit se déplacer, soit aller dans sa commune, soit aller au siège de la métropole, soit par Internet, donner son avis pour l'évolution de ce document dans sa commune et dans son territoire, et donner participer, disons. Nous avons déjà lancé une concertation, alors parce qu'on ne peut pas aller, comme on est en période électorale, il y a des contraintes en période électorale, donc nous avons, dans les communes, certains ont pu voir des triporteurs, des agents de la métropole, aller au-devant
des citoyens,
leur proposer un questionnaire, leur demander de participer, d'écrire leur volonté. Donc nous sommes en train, puis ça s'achève après-demain, je crois, ou demain même, oui, en fin de semaine. Donc jusqu'au 24 mars, il y a eu dans chaque territoire de la métropole un contact entre les métropolitains et la collectivité, justement pour amorcer cette concertation. Et la concertation, elle s'achèvera, je crois, c'est 90 jours avant l'arrêt.
90 jours avant l'arrêt du projet,
du projet, c'est-à-dire que l'arrêt du projet, c'est quand... C'est une démarche, c'est purement administratif, c'est à un moment donné, il y a le couperet qui tombe, on ne touche plus au document, il est arrêté, c'est le terme consacré, et c'est 90 jours avant, comme je ne vais pas vous dire au jour près le jour de l'arrêt, je ne vous donnerai pas le jour de l'arrêt de la concertation, mais elle dure tout le long de quasiment de l'élaboration de ce document.
Et la finalisation du projet, c'est quel horizon, c'est quelle échéance?
Alors c'est début 2025, mais auparavant les Toulousains seront de nouveau consultés, puisqu'il y a une enquête publique qui se tiendra en 2024. Alors, j'ai pas les dates, elles n'ont pas été fixées encore.
On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, bien sûr. Hein. Donc, tout citoyen peut exprimer son avis. Il suffit d'avoir 18 ans, je suppose, d'habiter, de travailler ou d'étudier dans la métropole. On peut participer, on peut s'informer. Alors, il y a un dossier de concertation qui est disponible au siège de Toulouse Métropole. Et puis aussi dans chacune des communes, des mairies, évidemment. Dans chaque mairie, on peut aller consulter le dossier.
Et les maisons de la citoyenneté à Toulouse, pour ce qui est toulousain.
Et puis, Internet, évidemment.
Bien sûr.
Lequel on peut s'exprimer. Eh bien, il est temps de conclure cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Annette Legnaud. Merci pour toutes ces explications et ces éclairages sur le PLUIH de Toulouse Métropole, parce que le sujet n'était pas simple. Le nouveau PLUIH est donc en cours d'élaboration et une concertation le concernant est en cours également. Tous les citoyens métropolitains, je le rappelle, peuvent y participer. Pour ça, il faut vous connecter au site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie Mission, rubrique Urbanisme. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne fin de semaine et à bientôt.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.